Vous êtes sur RTL.
7h45, merci d'écouter la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes.
Merci beaucoup d'être dans ce studio. Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Vous avez conscience qu'on n'est pas prêt ?
Qui n'est pas prêt ?
On n'est pas prêt. Près de 30 000 entreprises françaises ne sont pas prêtes à affronter un Brexit dur, un Brexit sans accord. C'est ce que le président du MEDEF a dénoncé hier. Vous avez négligé de les préparer. On est à 6 semaines jour pour jour du Brexit. De la date butoir.
D'une date butoir où on ne sait pas ce qui va se passer, donc je ne reproche pas à des entreprises d'être dans l'interrogation. Et je dis à nos amis britanniques qu'il serait temps de se décider à savoir s'ils veulent partir à l'amiable ou partir brutalement. Le choix est le leur, mais c'est vrai que cette incertitude qui dure, qui a encore été renforcée hier par un nouveau vote compliqué aux communes pour Madame May, pèse sur les entreprises. L'État est prêt, l'État s'est préparé, nous avons passé une loi, nous avons pris des ordonnances. La réalité, c'est que demain, au 30 mars, s'il doit y avoir une séparation brutale, nous sommes capables de faire entrer des marchandises ou de les faire sortir de France vers le Royaume-Uni, en ayant à la fois des échanges fluides et les contrôles nécessaires, puisque le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Nous sommes prêts. Il est vrai que les entreprises ont leur part du travail à faire.
Entreprises, pour être précis, les entreprises, elles vont découvrir ce que le marché commun, entre guillemets, avait enlevé, c'est-à-dire des contrôles douaniers, des contrôles vétérinaires, des nouvelles taxes. C'est tout ça un Brexit dur.
C'est tout ça un Brexit dur. Tout est expliqué. Il y a un site internet. Nous avons fait des réunions avec Agnès Pannier pour rencontrer les fédérations professionnelles.
Votre collègue du gouvernement.
Depuis octobre. Ceci étant, c'est vrai que pour en particulier des PME qui n'ont jamais travaillé que dans le marché unique, c'est autre chose.
Mais les grandes entreprises sont prêtes, les entreprises de taille moyenne.
Les grandes entreprises sont prêtes, même si elles ont suspendu beaucoup de décisions d'investissement, parce que pour des entreprises qui travaillaient de part et d'autre de la Manche, décider d'investir au Royaume-Uni aujourd'hui sans savoir ce qui va se passer, c'est évidemment irréaliste.
Il reste 6 semaines donc pour ces entreprises qui ne sont pas prêtes pour avoir les outils, les munitions propres à exporter leurs marchandises comme avant.
Mais les outils et les munitions,
parce
elles sont
nous,
à leur disposition.
Beaucoup d'échanges, hein. On est un des pays européens
qui a plus d'échanges. On est excédentaire avec le Royaume-Uni. Mm. Les outils et les munitions, toutes les directions des douanes, les directions départementales sont dans un rôle de conseil en ce moment aux entreprises. Et moi, ce que je dis aux entreprises ce matin, renseignez-vous. Ça n'est pas plus compliqué qu'autre chose de faire un formulaire douanier vis-à-vis du Royaume-Uni. Simplement, ne le découvrez pas le 30 au matin. Et si vous importez des marchandises du Royaume-Uni, assurez-vous qu'elles sont certifiées pour le reste de l'Union européenne et pas simplement au Royaume-Uni.
Marine Le Pen dit que c'est vous, vous Bruxelles, hein, vous les Européens, ceux qui sont au pouvoir, qui bloquaient, qui empêchaient Theresa May, les Britanniques, de renégocier l'accord. Elle demande à renégocier, ça on le sait, vous l'avez dit, elle a encore perdu un peu de temps d'ailleurs hier avec un vote négatif au Parlement. Est-ce que c'est vous qui l'empêchez d'avancer ?
Marine Le Pen est extraordinaire parce qu'elle se dit nationaliste, mais elle prend toujours le parti des autres pays contre la France et contre nos intérêts. C'est systématique et c'est le cas encore dans le Brexit.
Elle est cohérente, elle est pro-Brexit.
Alors écoutez, je ne sais pas tout à fait si elle est cohérente parce qu'elle est anti-française et elle est contre les entreprises françaises. Et ça, il faudrait peut-être qu'elle le dise et qu'elle l'assume. Ce que nous faisons depuis 2 ans, c'est respecter la décision britannique. Nous la regrettons, mais nous la respectons. Ça fait 2 ans que les Européens ont négocié avec le gouvernement britannique pour permettre une sortie à l'amiable, en douceur. Et d'ailleurs, le gouvernement britannique avait signé avec nous les conditions de cette sortie. Aujourd'hui, il y a une classe politique britannique qui s'affole, qui se divise, qui se dispute, parce que c'est facile de dire on sort, c'est plus difficile de dire où on va. C'est un sujet britannique. Nous, dans cette phase, notre rôle de responsable politique, c'est de défendre l'intérêt des entreprises et des citoyens
si
français.
Si Bruxelles renégociait, on y perdrait ?
On y perdrait énormément.
Ils veulent quoi ? Ils veulent l'argent du beurre, le beurre,
alors d'abord,
etc.
On ne le sait pas, parce que depuis 3 semaines maintenant, Madame May nous dit qu'il faudrait tout rouvrir, mais elle n'est venue avec aucune proposition, ni elle, ni aucun de ses ministres. J'ai rencontré Jeremy Hunt en début de semaine,
qui est votre
homologue, qui est le ministre des Affaires étrangères britannique, qui m'a dit ce serait bien si on renégociait. Je lui ai demandé quoi, et il m'a dit bientôt sur vos écrans. Mais bientôt, c'est le 29 mars. Et bientôt, c'est la sortie.
Ce qu'il voudrait, c'est par exemple pouvoir justement faire circuler les marchandises comme avant. gouvernement, mais la circulation des citoyens, la libre circulation.
Ah non, mais ça,
non.
Ils ne l'ont pas du tout dit. Nous ne savons pas du tout ce qu'ils veulent. Rien. D'accord. Ce qu'ils disent, c'est que ce que nous avions pris comme précaution pour la frontière irlandaise, ils n'arrivent pas à le faire voter par leur Parlement. Mmh. Alors, d'une part, c'était leur proposition qu'ils nous avaient mis sur la table et que nous avions accepté et qu'eux avaient signé. C'est un peu compliqué de comprendre que leur proposition, ils n'arrivent pas à la vendre.
Le suspense pourrait durer jusqu'à quand? Est-ce que ça peut durer jusqu'au 29 mars, minuit, moins 12?
Écoutez, le 29 mars, on saura qu'il n'y a pas d'accord et c'est bien pour ça que nous nous y sommes préparés. C'est bien pour ça que
Mais
depuis...
ça peut durer jusque-là?
Écoutez, c'est un choix purement britannique. Nous leur disons, dépêchez-vous, parce que pour nos entreprises, pour nos citoyens, restez dans l'incertitude, pour les Britanniques qui sont en France, à qui je veux dire qu'ils restent les bienvenus et que nous avons pris toutes les décisions.
Il y a déjà un nombre d'entreprises importants que vous avez inventoriées, d'entreprises britanniques qui reviennent en France?
Qui viennent partout en Europe, en France,
et en France.
Aux Pays-Bas, en Irlande, oui bien sûr, ou qui ouvrent des succursales ou qui mettent des têtes de pont sur le continent, notamment en France. Il y a par exemple une usine pharmaceutique qui se construit à Dunkerque au lieu de se construire au Royaume-Uni.
Nathalie Loiseau, on va à Strasbourg. Il a beaucoup été question de la crise des Gilets jaunes au Parlement européen. Le gouvernement français a eu sans doute les oreilles qui sifflent, puisqu'il a été question du recours des armes LBD dans le cadre des manifestations et des violences en France.
Alors, pardon de vous... corriger un petit peu, Elisabeth Martichoux, je pense que c'est la presse française qui doit avoir les oreilles qui sifflent ce matin.
Ah bon?
Parce que hier, la presse française s'est précipitée sur ce qui était une proposition de résolution qui venait de M. Yannick Jadot et d'une partie de la gauche française qui voulait faire condamner la France pour les manifestations et le comportement des forces de l'ordre. Je déplore personnellement que Yannick Jadot, au lieu de s'adresser aux Français, aille au Parlement européen parler des violences...
Il l'a dit largement, en tout cas via les médias, qu'il était contre l'usage des LBD.
Oui, mais il va parler des violences policières sans parler des 1200 forces de l'ordre blessées pendant les manifestations.
Il ne s'inquiète pas davantage de...
Cette proposition de M. Jadot a été très largement rejetée par plus de 400 voix. Et ce qui finalement a été adopté, c'est un texte qui parle de l'ensemble de l'Union européenne sans parler d'un pays en particulier, qui demande que les forces de l'ordre répriment avec modération les manifestations pacifiques. Et là, pardonnez-moi de vous dire que ce qui se passe depuis plusieurs samedis en France ne ressemble pas vraiment à des manifestations pacifiques. Simplement, la presse française s'est engouffrée en reprenant la proposition rejetée comme étant un texte voté.
On a beaucoup trop de fake news aujourd'hui. Je lis dans l'AFP en tout cas.
L'AFP, oui.
21h50, qu'effectivement, le Parlement européen a dénoncé le recours à des interventions violentes et disproportionnées de la part des autorités publiques lors de protestations et de manifestations pacifiques. C'est ce que vous avez dit et c'est dans la dépêche. Donc il y a
mais
pas
moi aussi, je trouve que c'est une dépêche corrigée à notre initiative. Et je déplore que dans cette période de fake news où on a du mal à expliquer qu'il y a une presse professionnelle et des réseaux sociaux qui racontent n'importe quoi, il n'y a pas davantage de vérification. Je déplore aussi que quelques députés français aient cru utile de décrire notre pays comme s'éloignant de la démocratie et proche de la dictature dans un Parlement européen qui les a regardés avec beaucoup de surprise.
Vous avez eu le temps d'écouter Alain Juppé hier lors de ses adieux à Bordeaux?
Je l'ai évidemment écouté, vous savez ma proximité avec Alain
Juppé.
Vous
avez travaillé avec lui au Quai d'Orsay il y a quelques années, vous le connaissez bien, vous avez été surprise par sa décision?
Écoutez, je trouve que c'est une bonne décision. D'abord, c'est un bon choix de Richard Ferrand.
Le président de l'Assemblée nationale.
Pas surprise, parce qu'il avait toujours dit qu'il ne voulait pas faire le mandat de trop à Bordeaux. Il avait toujours dit qu'il avait son âge et qu'il voulait continuer à être utile, mais différemment. Et je trouve que le voir partir au Conseil constitutionnel, ça sera un sage parmi les sages. C'est un homme qui a vraiment l'État et l'intérêt général chevillé au corps.
Est-ce que vous souhaitez qu'il prenne position dans le cadre de la campagne européenne? Parce que c'est une voix, c'est une incarnation des positions très pro-européennes.
Mais il a déjà pris position.
Est-ce qu'il faut qu'il le fasse juste avant d'entrer dans cette période où il sera contraint à un devoir de réserve? Il ne pourra plus dire...
Alain Juppé est un homme qui a le sens de sa fonction et je suis convaincue que son devoir de réserve, il va l'exercer très vite. Mais il a déjà pris position. Nous étions ensemble il y a quelques semaines à Bordeaux pour parler d'Europe et il avait dit à cette occasion qu'il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre la position européenne du gouvernement et la sienne.
Votre candidature tête de liste, La République En Marche.
Laquelle ?
Elle progresse ?
Je ne suis pas candidate. Merci de m'avoir posé la question, ça me permet de répondre.
Mais vous pourriez préférer, après tout, vous pourriez dire que vous préférez rester à votre ministère parce que vous y faites, vous êtes passionnée par vos dossiers européens, plutôt que d'aller siéger à Strasbourg. Est-ce que ce serait le cas ? Est-ce que c'est le cas ?
J'espère
Est-ce que vous
être
avez
utile.
Envie de rester au ministère ?
J'espère être utile là où je suis, ça n'est pas à moi d'en décider, d'évaluer mon utilité, mais j'espère être utile là où je suis. On a parlé Brexit, on peut parler Italie, on peut parler de beaucoup de choses dans l'Union européenne dont je m'occupe au quotidien, qui me passionne, je vous le confirme, et je vous le redis, je ne suis pas candidate. Et mais donc, je ferai campagne.
Et on entend qu'en tout cas, votre ministère vous intéresse. Notre ambassadeur à Rome,
oui.
Il a été rappelé, on le sait, pour protester contre le coup politique du leader 5 étoiles Di Maio. Où en êtes-vous ?
Il repart aujourd'hui.
Aujourd'hui ?
Il repart aujourd'hui à Rome.
Voilà une information, il repart aujourd'hui à Rome en fonction.
Absolument.
Donc ça y est, le dossier est clos.
Écoutez, le président de la République italienne, M. Mattarella, a appelé le président Macron. Ils se sont parlé, ils ont dit ensemble à quel point l'amitié entre la France et l'Italie était importante, à quel point les deux pays avaient besoin l'un de l'autre. Nous avons aussi entendu des leaders politiques qui s'étaient laissés aller à des paroles ou à des comportements franchement inamicaux et inacceptables, montrer qu'ils le regrettaient. On a entendu M. Salvini dire qu'il ne voulait pas de guerre avec la France. On a entendu M. Di Maio dire des choses compliquées, mais c'est vrai qu'il s'était mis lui-même dans une situation très compliquée. Je crois que l'Italie a besoin de la France, donc travaillons ensemble.
Merci beaucoup Nathalie Loiseau d'avoir été ce matin sur RTL.